Bon, merci beaucoup Jean-Marie. C'est un grand honneur d'être là cet après-midi, ou plutôt en début de soirée. Et c'est un grand plaisir de donner ce séminaire dans le cadre du cours de Jean-Marie. Vous allez voir, comme il a dit, ce n'est pas très compliqué, il y aura de l'électrochimie. Alors par contre, il y a une électrochimie un peu spéciale dont je vais parler dans les prochaines 45 minutes. Et cette électrochimie, comme le titre l'indique, c'est une électrochimie sans fil. Alors, je vais vous expliquer un peu les détails derrière tout ça. Mais avant, je veux faire un peu de publicité pour l'électrochimie, si ce n'était pas déjà fait par Jean-Marie. J'ai ici un transparent qui est une copie du editorial d'un journal que vous connaissez peut-être, ACS Nano, donc un très très bon journal. Donc c'est un article qui date de 2016. Et je vous invite à lire juste la première phrase. La première phrase dit que « This is the golden age of electrochemistry ». Donc quand il dit « this », ça veut dire « maintenant ». Et après, dans la prochaine phrase, vous trouvez effectivement les sujets dont parle Jean-Marie, batterie, capaciteur, fuel cells, solar to electrochemistry. Mais il y a aussi plein d'autres choses qui font que l'électrochimie, c'est vraiment un outil qui est, je dirais, indispensable pour la science du 21e siècle. Donc pour plusieurs raisons, et j'espère que cet après-midi, je vais vous expliquer quelques aspects qui vont vous convaincre que c'est vraiment un domaine auquel on doit s'intéresser si on veut faire de la science contemporaine. Alors pourquoi c'est une électrochimie un peu spéciale dont je veux parler ? C'est parce qu'a priori, comme le nom vous l'indique, il n'y aura pas de fil entre notre électrode sur laquelle se passent les choses et notre alimentation. Alors, vous voyez ici un design un peu bizarre d'une électrochimie classique. Donc, normalement, nous, alors peut-être pas Jean-Marie parce qu'il travaille sur les batteries, mais nous, à Bordeaux, on est plutôt électrochimiste analyticien. Donc, on travaille souvent avec des montages à trois électrodes. Donc, vous avez une électrode qui nous intéresse beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'électrode de travail. Le potentiel de ces électrodes est maîtrisé par une électrode de référence et forcément, il faut fermer le circuit en prenant une contre-électrode. Donc ça, c'est ce que vous trouvez dans tous les livres. Vous ouvrez le Bard, vous ouvrez tout ce que vous voulez. Il y a toujours ce montage à trois électrodes qui est expliqué quelque part. Alors, ce que je vais expliquer cet après-midi, c'est légèrement différent parce qu'on va parler d'électrochimie sans fil ou, si vous regardez dans la littérature, ça s'appelle aussi électrochimie bipolaire. Et la différence est fondamentale parce que, premièrement, on n'utilise pas une électrode de référence, donc on va éliminer cette pauvre fille. On a deux électrodes quand même parce qu'il faut emmener quelque part un potentiel et un courant. Par contre, la particularité, c'est que l'électrode qui nous intéresse, sur laquelle vont se produire nos réactions, c'est quelque chose qui se trouve quelque part dans la solution sans aucun contact avec les électrodes. Donc, c'est ce point rouge ici, ou ce cercle rouge, on appelle ça une électrode bipolaire. Et je vais vous expliquer en quelques mots en quoi consiste l'électrochimie bipolaire, ou l'électrochimie sans fil, si vous voulez, en français. Alors, qu'est-ce qui se passe si on place un objet au sein d'une solution où il y a ces deux électrodes, électrodes d'alimentation, ou en anglais, feeder electrodes. Mais vous avez un champ électrique qui s'établit entre les deux électrodes, c'est évident. Et donc, ce champ électrique qui existe dans la solution va induire sur cette particule qui se trouve quelque part dans la solution, et d'ailleurs, ça ne peut pas être une particule, ça peut être aussi des millions de particules en parallèle, une polarisation. Et cette polarisation, elle va dépendre où est-ce que vous êtes sur la surface de votre objet. Et donc, il y a une toute petite équation très simple qui explique le potentiel de polarisation en fonction de l'endroit. Donc, état, c'est ce potentiel de polarisation. X, c'est l'endroit, et vous avez une équation très simple qui vous dit que c'est proportionnel au champ électrique, le rayon caractéristique de votre objet et le cosinus de cet angle ici. Donc on voit bien à travers de cette équation que la polarisation, elle est maximale ici, parce que le cosinus va être 1. Elle est aussi maximale de l'autre côté, parce que le cosinus est 1, sauf qu'il y a un signe opposé. Donc vous avez ici un delta plus, un delta moins, et quelque part au milieu de l'objet, vous n'avez pas de polarisation. D'accord ? Alors, si on regarde donc, cette polarisation maximale entre les deux faces de notre objet, et si cette polarisation est suffisamment importante, vous allez pouvoir faire de l'électrochimie sur la particule sans qu'elle soit connectée à votre potentiostat. Et on va donc déclencher des réactions redox, Du côté où il y a une polarisation négative, ben, on va faire une réduction. Et du côté où il y a une polarisation positive, on va faire une oxydation. Et comme l'oxydation va libérer des électrons et la réduction elle va consommer des électrons, ben, il va falloir que les électrons passent à travers de l'objet, ce qui explique que l'électrochimie bipolaire, on peut uniquement la faire sur des objets qui sont conducteurs ou, comme vous allez voir à travers mon exposé, au moins semi-conducteurs. Okay? Donc ça, c'est un concept qui s'appelle donc électrochimie bipolaire. Ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Il y a des gens qui ont travaillé pendant plusieurs années au dernier siècle sur cette technologie, je dirais, et entre autres des électrochimistes très connus comme Martin Fleischmann à Southampton, qui a décrit pour la première fois l'électrochimie bipolaire sur des suspensions de microparticules. Ensuite, il y avait un peu un certain calme pendant, je dirais, deux décennies, et maintenant, on revit une sorte de renaissance de ce domaine, et je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Alors, dans un premier temps, juste deux précisions concernant le dispositif expérimental que vous mettez en place quand vous faites l'électrochimie bipolaire. Il y a deux configurations. Il y a une première configuration que j'appelle la configuration ouverte. Donc, ça veut dire que vous avez votre électrode bipolaire. Elle est entourée par votre électrolyte et vous avez les deux électrodes qui alimentent le dispositif. Donc, ça veut dire automatiquement, votre courant, quand il va traverser la cellule, il va avoir le choix entre deux passages. Soit il passe à travers de l'électrode bipolaire, donc ici en rouge, ou il passe dans la solution. Donc, comme il y a ces deux alternatives, il faut faire un peu attention quand vous faites de l'électrochimie bipolaire, parce que si vous êtes dans une situation un peu malheureuse, que votre objet est très mauvais conducteur et votre électrolyte est très bon conducteur, la majorité de votre courant va passer en dehors de votre objet bipolaire, et donc vous n'allez pas faire ou pas beaucoup faire de l'électrochimie bipolaire. Donc ça, c'est un petit danger de cette configuration ouverte. Nous, on aime bien la configuration ouverte pour d'autres raisons. Mais si on veut éviter cette problématique, on peut faire appel à une autre configuration qui s'appelle l'électrochimie bipolaire en configuration fermée. Alors là, l'objet bipolaire ou l'électrode bipolaire, elle constitue carrément la séparation entre les deux compartiments qui contiennent l'électrolyte anodique et l'électrolyte cathodique. D'accord ? Donc là, le courant, il n'a pas le choix. Il faut qu'il passe à travers de l'électrode bipolaire. Et donc, du coup, 100% de votre courant implique des réactions sur la surface de votre électrode bipolaire. Donc, c'est très populaire aussi, de plus en plus, d'ailleurs, dans des systèmes microfluidiques, etc. Donc, vous avez ici deux exemples. Si on regarde ici, on a un réservoir qui est parfaitement séparé de l'autre réservoir par une électrode de dimension nanométrique. Et donc, il y a pour le courant aucun choix. Il faut qu'il passe par la nanoélectrode ici pour traverser la cellule dans sa totalité. Okay. Donc, je vais me focaliser essentiellement, comme vous allez voir dans mon exposé, sur la configuration ouverte. Alors, pourquoi je parle de tout ça ? Parce qu'en fait, depuis une dizaine ou une bonne dizaine d'années, l'électrochimie bipolaire, elle vit un genre de renaissance. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Martin Fleischmann, donc ça, c'était au milieu des années 80. Donc, c'était très, très, très calme pendant 10, presque 20 ans. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, on voit une augmentation exponentielle des travaux autour de l'électrochimie bipolaire dans plein, plein, plein de domaines différents, au point que, par exemple, on était obligé, ou disons pas obligé, on était stimulé pour sortir un issue spécial ou une édition spéciale d'un journal d'électrochimie l'année dernière autour de l'électrochimie bipolaire sur les différents aspects. Alors, pourquoi c'est devenu tout d'un coup si populaire ? Parce que, historiquement, l'électrochimie bipolaire était plutôt appliquée pour d'expériences à grande échelle, des réacteurs, des batteries. Et depuis 10 ans, on commence à comprendre que c'est un outil formidable pour tout un tas d'applications dans le domaine micro et nano. Et j'espère qu'à la fin de mon exposé, vous allez être convaincus. Alors, juste une petite liste ici des différents domaines de la chimie qui vous permettent d'utiliser l'électrochimie bipolaire. Donc, il y a la chimie analytique, très, très importante. Il y a un groupe extrêmement actif dans ce domaine aux États-Unis. C'est Richard Crookes, au Texas, qui travaille et qui était un des pionniers d'utiliser l'électrochimie bipolaire dans des domaines de chimie analytique. Il y a la catalyse également, par exemple, pour le screening d'électrocatalyseurs. Et ça devient très, très évident parce que, si vous avez bien compris, quand vous avez de l'électrochimie bipolaire, vous n'êtes pas obligé de mettre un câble sur chacune des électrodes. Donc, ça veut dire qu'on peut adresser simultanément des dizaines, des centaines, des milliers d'électrodes. Et donc, ça veut dire, si on veut faire un genre de high throughput, comme Jean-Marie en a parlé tout à l'heure, ça veut dire faire du screening où on teste 1000 électrodes simultanément, ben, l'électrochimie bipolaire, c'est un outil fantastique. Et donc, ça a été mis en évidence aussi par le groupe de Richard Crookes aux États-Unis. Alors, également, bien sûr, la science des matériaux et la conversion d'énergie. Donc, cet après-midi, je vais me focaliser essentiellement sur les deux derniers points, parce que ce séminaire est dans le cadre d'une chaire autour de la chimie du solide ou des matériaux et de la conversion ou stockage d'énergie. Donc, je vais me concentrer sur ces deux points. On travaille beaucoup à Bordeaux aussi sur les applications en chimie analytique. Je n'aurai pas le temps d'adresser ça parce qu'il me faudra un séminaire entier pour ça. Donc, vous voyez m'excuser que je me focalise un peu sur ces deux derniers points. Alors, juste retracer très, très rapidement un peu quelques étapes clés de cette renaissance de l'électrochimie bipolaire. En bas, vous trouvez ici Fleischmann. Alors, effectivement, Fleischmann, il n'a pas très bien fini dans sa carrière scientifique. C'est le même Fleischmann que la fameuse histoire de la fusion froide. Et donc, ça lui a coûté sa vie scientifique. Voilà. On en reparlera. Mais il était un très, très bon électrochimiste. Et notamment, il a contribué beaucoup à l'électrochimie bipolaire dans ses débuts. Et ensuite, si vous parcourez un peu cette liste, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous trouvez des contributions à la fois en chimie analytique, vous trouvez des contributions en chimie des matériaux, vous trouvez des contributions par rapport à la propulsion d'objets, etc., etc. Donc, si ça vous intéresse, vous avez en bas une référence où vous retrouvez ce tableau. Alors, juste deux rappels pour la partie science des matériaux, pour un peu mettre en exergue les pionniers dans ce domaine. Il y a un groupe qui a travaillé pendant une dizaine d'années dans ce domaine d'électrochimie bipolaire appliquée à la chimie des matériaux, et c'était le groupe de Bradley, malheureusement décédé depuis. Et lui, il a essayé pour la première fois de voir si on peut utiliser l'électrochimie bipolaire pour fonctionnaliser des micro, voire des nanoparticules de façon asymétrique. Alors, ce qu'il avait essayé de faire, c'est de mettre en place les deux électrodes qui nous servent d'alimentation. Et entre ces deux électrodes, il place quelque part dans l'électrolyte, il place des nanoparticules ou des microparticules de graphite. Par contre, il était obligé de les fixer sur du papier de cellulose pour qu'ils ne se promènent pas dans la solution et qu'ils restent stables en termes d'orientation. Et après, il a essayé de déposer du palladium. Alors, d'un point de vue concept, c'était pas mal, mais le résultat était moyennement convaincant. Vous voyez ici, à droite, vous voyez une image. Donc ça, c'est une particule de graphite. Vous voyez effectivement un tout petit peu de palladium à droite. Mais bon, ce n'était pas une expérience 100% convaincante, mais c'était quand même le début de cette réflexion. Est-ce qu'on peut utiliser l'électrochimie bipolaire dans le domaine des micro- et nanotechnologies? L'autre évolution très importante, c'était par rapport à la génération de gradients. Si vous avez compris le concept d'électrochimie bipolaire, vous voyez que à travers de votre objet qui se trouve dans la solution, je vous ai parlé tout à l'heure de la polarisation qui dépend de l'endroit. Donc si vous êtes au milieu, vous n'avez aucune polarisation. Si vous êtes à l'extrémité de votre objet, vous avez une polarisation maximale. Donc ça veut dire que vous allez faire des réactions électrochimiques avec des forces motrices qui varient tout le long de l'objet. Donc ça vous permet de générer, par exemple, des gradients de matériaux, soit dans le bulk du matériau, on verra ça tout à l'heure, soit à la surface du matériau, donc vous pouvez faire des greffages, etc. Donc ici, juste deux travaux un peu pionniers dans ce domaine. Donc à gauche, vous avez un travail qui était pionnier dans le domaine des polymères conducteurs. Donc vous prenez un morceau de polymère conducteur et vous le soumettez à votre champ électrique, libre dans une solution. Vous allez oxyder d'un côté, vous allez réduire de l'autre côté, donc vous allez créer un gradient du degré d'oxydation à travers de votre objet de polymère conducteur. Donc, vous voyez ça ici avec un gradient de couleur pour les différents polymères. Et à droite, vous avez un autre gradient à une échelle beaucoup plus basse, c'est-à-dire vous avez une couche monomoléculaire qui était sur une surface d'électrode. Et si vous exposez cette électrode à votre expérience d'électrochimie bipolaire, vous allez créer une oxydation ici, une réduction ici. Donc, vous allez enlever sélectivement ou partiellement une partie de votre couche monomoléculaire. Donc, vous allez créer un gradient de densité de votre couche monomoléculaire à la surface de votre électrode. Donc, ça a été mis en évidence ici par ces profils d'épaisseur. Et donc, ça, c'est assez, assez pionnier, et c'était un peu le début de cette histoire. Donc, ça, comme je disais tout à l'heure, ça remonte à peu près il y a une dizaine d'années. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Bordeaux dans ce contexte? On s'intéresse essentiellement à la désymétrisation de particules. Et à nouveau, vous avez bien compris, l'électrochimie bipolaire, c'est un outil fantastique pour effectuer sur la même particule deux réactions, parfois complètement opposées, et donc du coup briser la symétrie au niveau d'une particule. Et donc, une des applications qu'on aime bien, c'est de fabriquer ce qu'on appelle des particules Janus, d'après le dieu romain qui avait soi-disant deux visages. Donc, toute particule qui a deux propriétés opposées ou des couleurs différentes ou des propriétés physico-chimiques différentes sur les deux faces de la particule, ça s'appelle une particule Janus. Donc, l'électrochimie bipolaire est un outil indispensable, je pense, pour ce genre d'expérience. Et la raison, c'est la suivante, parce que si vous regardez les autres méthodes qui servent actuellement pour faire des particules Janus, vous trouvez plein de différents concepts. Et ici, je montre uniquement deux ou trois. La façon la plus simple, c'est de mettre vos particules sur une surface. Vous arrivez par le haut, vous évaporez du métal, vous enlevez la particule et vous avez effectivement une particule Janus, mais vous êtes en 2D, donc vous ne pouvez pas trop vous imaginer d'en faire des kilogrammes ou des tonnes avec cette méthode-là. L'autre approche, c'est presque pire, parce que là, vous avez un canal microfluidique. Vous injectez deux liquides ou deux polymères en état fondu et vous formez des particules, vous les polymérisez et vous sortez des particules Janus un par un. À nouveau, le kilogramme est loin. Peut-être la possibilité la plus convaincante, c'est ici, c'est un disque tournant. Donc, il tourne autour de son axe. Vous injectez deux solutions de polymères, une qui vient d'en haut, l'autre d'en bas, et par la force centrifuge, vous expulsez des particules vers la bordure et vous formez des particules Janus. Tout ça, c'est bien, mais très probablement pas super efficace pour en faire des tonnes de matériaux. Donc, les désavantages sont listés à nouveau ici, et notre contribution à ce domaine, c'est de voir si on peut utiliser l'électrochimie bipolaire dans ce contexte, parce que, comme vous avez compris, chaque particule qui va se trouver quelque part dans votre solution va sentir le même champ électrique, donc vous allez briser la symétrie sur chacune des particules simultanément. Donc, a priori, vous avez une réaction bulk qui vous permet de casser la symétrie. D'accord ? Alors, ça, c'est la théorie. La pratique est un peu plus compliquée pour la simple raison, si vous vous rappelez un des premiers transparents, il y avait cette équation. Donc, normalement, j'ai besoin, pour faire les deux réactions redox sur les deux faces de ma particule, j'ai besoin d'une certaine différence de potentiel minimale. Sinon, la thermodynamique ne marche pas. D'accord ? Donc ça, a priori, pour un couple de réactions redox, ça, c'est quelque chose qui vous est imposé. Ensuite, vous avez une particule d'une certaine taille ou d'un rayon, et vous avez votre champ électrique. Donc vous voyez bien, à travers cette équation, vu que ça, on n'a pas le droit de bouger, si je diminue de plus en plus la taille caractéristique de ma particule, je vais avoir un problème parce qu'il faut que je compense par une augmentation du champ électrique. Et donc, ça veut dire, si j'arrive avec des particules de l'ordre de quelques nanomètres, ben, je vais avoir des champs électriques, ça vous pouvez le calculer très très rapidement, je vais avoir des champs électriques qui sont de l'ordre du mégavolt par mètre. Okay? Donc ça nous a fait un peu peur au début. Et la première thésarde qui a travaillé sur le sujet, donc c'était Mademoiselle Vara Kolvit, elle est venue dans mon bureau et m'a dit « Non, ce n'est pas possible, on laisse tomber. » Et j'ai dit « Non, 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 mais on va quand même essayer. » Parce qu'on avait un appareil d'électrophorèse capillaire au laboratoire. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, électrophorèse capillaire, c'est quelque chose qui, normalement, est utilisé pour séparer des molécules par un champ électrique assez important. Donc, on applique 30 kV, 50 kV. Et je savais que personne ne s'en servait de cet appareil. Donc, j'ai dit, mais on va essayer de faire la synthèse de matériaux dans cet appareil d'électrophorèse capillaire. Donc, schématiquement, ce qui se passe, c'est que vous avez deux réservoirs. Une anode, une cathode, vous avez un capillaire qui relie les deux, et si vous allumez ici une différence de potentiel, typiquement 30 kV, 50 kV, vous allez créer ici, à l'intérieur de ce capillaire, vous allez créer un flux électro-osmotique qui va vous pomper de l'électrolyte d'un côté, ça veut dire du côté anodique, vers le côté cathodique. Donc si dans cette partie, vous avez des particules non modifiées, ils vont être aspirés à l'intérieur du capillaire Pendant leur trajet à travers du capillaire, ils vont subir ou sentir le champ électrique qui réside dans le capillaire. Et si par hasard, vous avez dans le capillaire ou dans la solution aussi un cation métallique qu'on peut réduire, vous allez avoir une réaction redox. Donc d'un côté, comme c'est illustré schématiquement ici, une réduction de votre métal, disons votre ion métallique. De l'autre côté, s'il n'y a rien d'autre, ben, vous allez oxyder le solvant, donc vous avez un peu d'oxygène. Okay, donc ça, c'était l'idée. Et on pouvait appliquer donc, des potentiels très, très importants. Et on a testé. Et comme vous pouvez vous en douter, ça a très bien marché. Ici, un premier exemple. Donc, effectivement, on descend à des échelles d'une centaine de nanomètres. Vous avez ici de l'or sur des petits morceaux de nanotubes de carbone. Alors, forcément, là, il y a un seul nanotube. Mais bon, vous imaginez, vu qu'on a fait passer des milliers de nanotubes, c'est juste un exemple représentatif. Donc, vous avez un cluster, un nanocluster d'or au bout et sélectivement uniquement au bout de ce nanotube de carbone. Si ça fonctionne sur un nanotube, forcément, ça fonctionne aussi sur un microtube. Donc ici, vous voyez à nouveau de l'or sur un microtube de carbone. Vous pouvez mettre de l'argent, vous pouvez mettre du cuivre, vous pouvez mettre du nickel, vous pouvez mettre du platine. Vous pouvez mettre pratiquement tous les métaux qui sont électrodéposables à l'extrémité de votre objet, nano-objet ou micro-objet. Donc ça, c'était bien, ça fonctionnait assez bien. Et en fait, une des raisons pourquoi ça fonctionnait assez bien, c'était parce que les objets, à la base, c'était des objets anisotropes. Donc ça veut dire, s'ils rentrent dans le capillaire, automatiquement, par le champ électrique qui est très élevé, ils vont s'orienter parallèle au champ électrique et ils vont traverser le capillaire de cette manière-là. Donc vous avez une modification uniquement d'un côté. D'accord ? Ils n'ont pas le choix, parce que ça coûte beaucoup trop d'énergie, de tourner à l'intérieur du capillaire contre le champ électrique. Donc ça allait très bien. Par contre, ça devient beaucoup plus compliqué si vous voulez faire ça avec des particules sphériques. Parce que si vous injectez des particules sphériques dans ce capillaire, pendant que vous appliquez le champ électrique, la particule, elle peut tourner autour de son axe sans que ça lui coûte de l'énergie. D'accord ? Donc elle n'a aucune motivation de rester orientée de la même façon du début du capillaire jusqu'à la fin du capillaire. Donc là, on avait un problème. On s'est dit, bon, mais très bien, on va essayer de ralentir cette rotation de la particule, ça veut dire qu'on va augmenter la viscosité de notre électrolyte. Sauf que ça crée un deuxième problème, parce que si vous augmentez la viscosité de l'électrolyte, ben, votre électrophorèse capillaire, elle ne va pas aimer, parce que faire passer un gel à l'intérieur du capillaire, ce n'est pas bon. Okay ? Donc, on était obligé de changer un peu le design de notre réacteur bipolaire. Donc ici, vous voyez schématiquement un peu ce qu'on a fait. Donc, ce n'est rien de très, très compliqué. Vous avez deux électrodes qui nous alimente tout le bazar. Vous avez deux membranes qui nous séparent justement de nos électrodes, parce que sur les électrodes, vous imaginez, on applique quand même pas mal de potentiel. Donc vous avez un peu de bulle, vous avez pas mal de convection, donc on ne veut pas que ça nous perturbe. Et entre les deux membranes, vous avez donc votre gel dans lequel nous avons immobilisé une suspension des particules qu'on veut modifier. On applique le champ, typiquement les réactions se font très vite, ça dure quelques secondes, 10, 20 secondes. Et on enlève le gel par lavage, et à la fin, vous observez des particules de ce type-là. Donc, ils sont parfaitement Janus. Vous avez d'un côté le dépôt de votre métal, alors de l'or, du platine, tout ce que vous voulez. De l'autre côté, vous n'avez rien, ou vous pouvez même mettre autre chose, parce que vous avez une oxydation. Donc, si jamais vous avez un précurseur dans votre solution qui peut donner un matériau par oxydation, typiquement des polymères conducteurs, mais vous pouvez avoir une double fonctionnalisation en une seule manip. D'accord ? Donc ça, c'était pas mal. Après, on a essayé de faire des choses plus compliquées. Comme d'habitude, on n'est jamais content avec ce qu'on a. Donc on a essayé, au lieu de faire des sphères Janus, où on a vraiment une hémisphère qui est recouverte avec le métal, on a fait des structures plus complexes. Par exemple, ici, vous voyez un anneau fait de métal. Et par les paramètres de notre expérience, on peut déplacer cet anneau. Donc on peut le créer soit autour de l'équateur, ou on peut, en augmentant le champ électrique, en diminuant le champ électrique, on peut le déplacer vers la pointe. Et quand vous faites ça, ben, votre anneau il va avoir un rayon de plus en plus petit. Et vous allez finir avec un dépôt sous forme d'une seule pointe nanoscopique, je dirais. Alors, si on peut faire un anneau, bien sûr, on peut faire plein d'anneaux aussi. Donc ça, c'est juste pour jouer avec le concept. Donc vous changez le potentiel. Et à chaque potentiel, vous créez un anneau à un autre endroit. Et donc, ça vous permet de jouer un peu avec l'architecture de vos sphères. Donc, vous pouvez faire même des dépôts orthogonaux ou dans n'importe quelle autre orientation. Donc, tout ça, c'était très bien. Mais on l'a essentiellement fait sur des particules qui étaient conductrices. donc du carbone, du métal, etc. Mais il y a plein d'applications, et j'en parlerai plutôt vers la fin, il y a plein d'applications où on aimerait utiliser des particules Janus à base de semi-conducteurs, notamment pour la catalyse, aussi pour la photocatalyse. Donc, on était un peu embêtés par rapport à cette histoire que je vous ai racontée au début. Si vous avez un semi-conducteur, par définition, ce n'est pas un bon conducteur, mais c'est un semi-conducteur. Donc, vous avez cette compétition entre le courant qui a le choix de passer dans le semi-conducteur ou de passer dans l'électrolyte. Et alors, ça nous a beaucoup embêtés. On a essayé de modifier les semi-conducteurs par électrochimie bipolaire. Ça n'a pas marché pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on a trouvé une astuce. Et cette astuce, c'est de combiner l'électrochimie bipolaire avec la lumière. Donc, en gros, ce qu'on fait, on prépare une suspension de nos particules qui sont semi-conductrices. Pendant qu'on applique le champ électrique, on irradie avec une lumière, avec une bonne longueur d'onde, et on va obtenir une réaction, cette fois-ci, qui devient possible, parce qu'en en irradiant votre suspension avec des photons, vous allez créer un pair électron-trou. Et grâce au champ électrique, quand même très élevé, vous allez séparer les électrons et les trous, et vous allez emmener les électrons d'un côté et les trous de l'autre côté. Et donc, du coup, sélectivement, vous allez créer votre dépôt métallique à une extrémité de votre semi-conducteur. Et je vous montre ça ici. Donc, vous voyez ici des nanofibres de TiO2 où on a sélectivement d'un côté un métal, en l'occurrence, là, c'est de l'or, d'accord ? Et donc ça fonctionne uniquement par synergie si vous avez le champ électrique plus la lumière. Si vous n'avez que la lumière, vous allez faire du métal un peu partout parce que vous avez créé des électrons de trous qui réagissent en surface. Donc vous allez couvrir votre objet plus ou moins homogènement avec le métal. Si vous appliquez que le champ électrique, ça ne marche pas. Mais par contre, si vous appliquez les deux en parallèle, vous avez ce genre d'objet. Et là, à nouveau, le défi était de passer d'objets anisotropes, donc ça veut dire ces histoires de fibres, vers des particules qui sont sphériques. Ça marche également. Donc, à nouveau, on est obligé de les stabiliser dans une espèce de gel. On a des particules de TiO2 qui sont immobilisées dans un gel d'agarose, ou de agar-agar, pardon, ou éthylcellulose, et on irradie, et pendant cette irradiation, on applique le champ électrique. On en finit ici avec des particules Janus qui, d'un côté, ont un dépôt. En l'occurrence, ça peut être de l'or ou du platine. Et de l'autre côté, ils n'ont rien ou éventuellement autre chose, si vous voulez. D'accord ? Donc, ça marche très, très bien pour les semi-conducteurs. Alors, on était contents. Par contre, comme je disais, on n'est jamais contents. Parce qu'il y a plein de matériaux que vous aimeriez générer par électrochimie bipolaire et qui ne sont pas générables par un processus électrochimique parce qu'ils ne sont pas actifs d'un point de vue redox. Si vous voulez, par exemple, déposer la silice ou si vous voulez déposer du TiO2 sur une surface, les précurseurs ne sont pas électrochimiquement actifs. D'accord ? Donc, si on veut étendre l'électrochimie bipolaire aussi à ce domaine de matériaux qui sont très intéressants pour un certain nombre d'applications, mais qui sont établis à partir de précurseurs qui ne sont pas électroactifs, il faut utiliser un concept légèrement élargi qu'on appelle électrochimie bipolaire indirecte. Alors, ce que je vais dire par là, c'est la chose suivante. Vous prenez votre particule qui va vous servir d'électrode bipolaire, vous la mettez dans un premier temps tout simplement dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a rien d'autre ? Ben, vous allez électrolyser l'eau, ça veut dire d'un côté vous allez créer du hydrogène par réduction, de l'autre côté vous allez créer de l'oxygène par oxydation. Ça, ce n'est pas très important, en tout cas pas pour l'instant, tout à l'heure ça va être plus important. Ce qui est important pour l'instant, c'est qu'en même temps vous changez le pH localement. Ici, ça devient très acide. De l'autre côté, ça devient très basique. Ici, une manip de preuve de concept avec un indicateur universel de pH. Vous voyez ici, de ce côté-là de la particule, ça devient rouge. De ce côté-là, ça devient bleu. Donc, on a créé maintenant deux conditions de pH différentes sur les deux côtés de notre objet. Et si, pendant tout ça, vous avez un précurseur dans votre solution qui peut, suite à un changement de pH, former un matériau, par cristallisation, par précipitation, par polymérisation, mais vous allez déposer quelque chose, bien que le précurseur n'était pas électroactif. D'accord ? Alors, petite illustration, on a fait ça avec plein de choses, avec des pots de silice, des pots de TiO2. Je vais juste m'arrêter 5 secondes sur ce que j'appelle la peinture électrophorétique. Alors, le principe de la peinture électrophorétique, très très connu dans des grandes applications industrielles, C'est la chose suivante. Vous avez un pôle électrolyte qui est chargé et donc soluble dans un premier temps. Vous avez ici des charges négatives sur les groupements carboxyle. Si vous changez le pH, ça veut dire que vous baissez le pH, vous avez protonation de ces carboxyles. Tout ça, ça devient neutre et ça va précipiter. Ce n'est plus soluble dans l'eau. D'accord ? Donc, c'est exactement ça qu'on va faire à la surface de nos billes, de nos objets. Donc là, vous avez une bille de carbone. Vous la mettez dans une solution qui contient ce polyélectrolyte. Vous appliquez votre champ électrique. Le polymère va précipiter que d'un côté. Et si, par hasard, pendant cette précipitation, vous avez encore autre chose dans la solution, par exemple un catalyseur, un pigment, une espèce biologique, tout ce que vous voulez, vous allez co-immobiliser cette espèce sur la surface de votre particule Janus. Et je vous montre ça ici, en bas. Donc là, vous avez le polymère qui s'est déposé sélectivement d'un côté. Et vous voyez, tous les billes sont modifiées de la même façon. Et en même temps, on avait un fluorophore dans la solution qui a co-précipité avec le polymère. Et donc, du coup, vous avez une particule fluorescente, mais elle fluoresce uniquement de l'autre côté. Donc, si ça avait été un catalyseur, ben, vous aurez une activité catalytique d'un côté de la particule et éventuellement une autre activité catalytique de l'autre côté de la particule. Alors, donc ça, c'est un premier exemple d'électrochimie bipolaire indirecte. Donc, on déclenche une réaction électrochimique, certes, dans un premier temps, mais c'est le résultat de cette réaction électrochimique qui va déclencher une réaction chimique qui conduit à votre matériau. Okay ? Je vais vous donner un deuxième exemple parce que ce sont des composés qui sont extrêmement populaires actuellement. Donc, ces composés, ils s'appellent en anglais, alors je n'ai pas trouvé une traduction française, et comme Jean-Marie m'a demandé de parler en français et de faire les transparents en français, c'est peut-être le seul mot que j'ai laissé en anglais parce que je ne connais pas la traduction. Alors, c'est des Metal Organic Frameworks, MOFs en anglais. Et donc, c'est des catalyseurs, c'est des molécules qui ont des propriétés de stockage de gaz, de capteurs chimiques, etc. Vous regardez un peu la littérature, il y a des centaines et des milliers d'articles sur les MOF. Par contre, la fabrication, la synthèse des MOF, parfois, est très compliquée parce qu'il faut passer en conditions hydrothermales, ça veut dire grande pression, grande température, etc. Donc, on s'est dit, mais pourquoi on utilisait pas de l'électrochimie bipolaire pour faire ces MOF? Et en fait, les MOF sont constitués d'un cation métallique central et autour, vous allez mettre des ligands. D'accord? Donc, ça va interagir et ça va former des réseaux tridimensionnels. Et on a essayé de faire ça par électrochimie bipolaire, tout simplement en démarrant avec une bille métallique. Alors, en l'occurrence, ici, c'est du cuivre, mais ça peut se faire aussi avec du zinc. Donc, si vous exposez cette bille à votre champ électrique, du côté où il y a la polarisation positive, vous allez dissoudre le métal, vous allez former le cation métallique. Vu que dans la solution, vous avez votre ligand qui est présent, il va réagir directement à la surface de votre bille de métal avec votre ligand et il va former le MOF. Et vous allez voir ici des jolis cristaux qui poussent. Si on fait les rayons X sur ces cristaux, on voit qu'ils ont exactement la même structure que ce que vous avez peut-être synthétisé par synthèse hydrothermale. D'accord ? Donc on peut faire des particules Janus, MOF d'un côté et éventuellement autre chose de l'autre côté si on fait ici une réduction simultanée d'un autre précurseur. Dernier exemple de modification, pour des raisons très simples que je vous expliquerai après, c'est d'étendre l'électrochimie bipolaire au-delà des matériaux solides vers des matériaux qui sont plutôt souples ou des gels. Pourquoi on veut faire ça? Parce qu'à ce moment-là, on peut stocker à l'intérieur de notre gel quelque chose qu'on pourra éventuellement relarguer plus tard. Et vous allez avoir un exemple. Alors, quand je dis gel, dans un premier temps, c'est un peu embêtant parce que les gels, tels que nous, on les connaît, ils ne sont pas conducteurs. Donc ici, c'est des gels très, très classiques à base d'alginate mélangé avec du calcium. C'est des choses que vous trouvez en cuisine moléculaire. Vous faites tomber une goutte d'alginate dans une solution de calcium. Ça donne des jolies billes et vous pouvez faire du caviar. Sauf que ce n'est pas bon pour l'électrochimie bipolaire. Parce que ce n'est pas conducteur. Donc, ce qu'on a fait dans un premier temps pour pouvoir quand même les utiliser en électrochimie bipolaire, on a infiltré ces billes, ce réseau de polymères, par un monomère, en l'occurrence aniline, mais ça pourrait être aussi un autre monomère. Ça devient légèrement jaune à cause de la couleur de l'aniline. Ensuite, on a fait une polymérisation chimique. On crée de la polyaniline, un réseau de polyaniline qui interpénètre le réseau déjà existant de l'alginate. Donc vous avez deux polymères qui sont chevautrés à l'intérieur de ces billes qui maintenant forcément sont devenues noires parce que vous avez la polyaniline. Donc maintenant vous avez une bille qui est souple, elle est conductrice, donc on peut faire de l'électrochimie bipolaire. Si vous exposez cette bille, si vous exposez cette bille à votre champ électrique, vous allez obtenir une oxydation d'un côté, une réduction de l'autre côté, vous changez de couleur, comme vous voyez ici. À gauche, vous avez une couleur verte parce que vous avez détérioré la polyaniline. Alors, ce n'est pas juste un changement de couleur. Ce qui est important, et vous allez le voir dans la suite, vous allez changer aussi la perméabilité de votre réseau de polymères. Donc, ça veut dire, a priori, si jamais vous avez quelque chose stocké à l'intérieur, ça va plutôt sortir préférentiellement du côté vert parce que vous avez dégradé partiellement votre polymère. D'accord ? Donc, tout ça pour vous dire qu'avec l'électrochimie bipolaire, et j'ai laissé tomber plein d'exemples qu'on a également étudiés, on peut faire des choses très, très intéressantes pour rendre asymétrique la matière et notamment les particules à l'échelle micrométrique et voire même à l'échelle nanométrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Je me suis dit, je vais sélectionner quelques exemples qui fit un peu avec le contexte énergie qui est lié à la chaire de Jean-Marie. Alors, on va essayer d'utiliser l'électrochimie bipolaire dans un cadre de conversion d'énergie et je vais vous expliquer, illustrer quatre exemples, ou disons quatre familles de conversion d'énergie où l'électrochimie bipolaire est très importante, soit de façon directe, soit de façon indirecte. Premier exemple, ça va être la transformation de l'énergie électrique en énergie chimique ou l'inverse, énergie chimique qui va donner de l'énergie électrique. Deuxième exemple, énergie électrique qui donne de la lumière ou de la lumière qui fabrique de l'énergie électrique. Troisième exemple, énergie chimique donne une énergie mécanique. En gros, c'est un mouvement. Et le dernier et quatrième exemple, c'est transformation d'énergie électrique en énergie mécanique. Alors, pour le premier exemple, ce qui nous vient directement à l'esprit tout de suite, c'est les batteries, bien entendu. On transforme de l'énergie électrique en énergie chimique ou de l'énergie chimique en énergie électrique. Et effectivement, le concept est assez simple. Au lieu d'avoir une batterie, vous avez une anode et une cathode, et entre les deux, vous avez un électrolyte. Ben, si vous en intercalez d'autres électrodes, sans les lier physiquement avec un fil, ils vont expérimenter la polarisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, chacune de ces plaques va pouvoir agir comme une anode bipolaire ou une cathode bipolaire. Donc, vous allez multiplier à l'intérieur du même setup, vous allez multiplier le nombre de cellules électrochimiques qui se comportent un peu comme un stack, ce qu'on appelle un stack dans le jargon. D'accord ? Donc, ça, c'est des travaux qui datent déjà un peu. Ça, c'est juste un exemple. Il y a plusieurs personnes qui ont réfléchi dans ce sens-là, de faire des électrodes, utiliser des électrodes bipolaires pour faire des systèmes de stockage d'énergie. Un autre exemple qui est très récent et qui vient de notre groupe où on transfère l'énergie électrique en énergie chimique, c'est d'utiliser des catalyseurs. En l'occurrence, ici, c'est des composés qui sont à base de sélénure de molybdène pour fabriquer in situ plus facilement de l'hydrogène et de l'oxygène en exposant ces particules à un champ électrique. Donc, normalement, on appelle ça de l'électrolyse de l'eau ou water splitting, très, très populaire actuellement. C'est lié avec des surpotentiels, à la fois sur l'anode et sur la cathode. Donc, si vous voulez utiliser un peu moins de surpotentiels et donc gagner en énergie et gagner en argent, il faut des catalyseurs. Et donc, un des catalyseurs qui est très populaire maintenant dans la littérature, c'est ce composé-là. Ce que je vous montre ici, c'est une expérience très simple. Vous placez cet objet dont vous voulez tester l'activité catalytique. Vous le placez dans votre champ électrique. Alors, en l'occurrence, c'est un seul objet, mais vous pouvez mettre peut-être des centaines d'objets en parallèle pour les tester simultanément. Ici, on teste uniquement notre objet par rapport à un objet tout à fait anodin, c'est du carbone. Donc, vous avez un morceau de carbone qui n'a aucune activité catalytique et vous appliquez un premier champ électrique de 8,6 volts par centimètre. Ce que vous voyez, c'est sur le carbone, il ne se passe rien. Par contre, sur votre nouveau catalyseur, là, c'est juste un exemple, mais ça pourrait être n'importe quel autre type de catalyseur. Pour le même champ électrique, vous avez déjà des bulles qui se développent. D'accord ? Et il faut pousser le champ électrique beaucoup, beaucoup plus loin avant que vous voyez un développement de bulles gazeuses sur le carbone. D'accord ? Donc, comme ça, vous avez une estimation directe et visuelle de l'activité catalytique de votre matériau que vous le testez. Et maintenant, vous extrapolez ça à un réseau d'une centaine de matériaux, mais vous faites une seule expérience et vous avez tout de suite le résultat concernant leur activité catalytique respective. Okay? Alors, deuxième exemple où on transforme cette fois-ci énergie électrique, pas en énergie chimique, mais en énergie lumineuse. Si on place un objet, ici à nouveau schématisé par une bille, dans le champ électrique, et on effectue à la fois une réaction de réduction à droite, elle ne nous intéresse pas beaucoup pour l'instant, ça peut être par exemple la réduction des protons. Par contre, à gauche, on va oxyder des précurseurs moléculaires qui, après l'oxydation, vont se trouver dans un état excité. Quand ils vont relaxer de leur état excité, ils vont émettre un photon. On appelle ça l'électrochimie luminescence, ou plus court, ECL. Donc, si vous faites ça avec une bille, ben, a priori, votre bille, une fois que vous allumez le champ électrique, elle va émettre la lumière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'avantage, le grand avantage de l'électrochimie bipolaire, c'est que vous êtes capable de faire ça sur une bille, mais vous pouvez le faire sur 1 million de billes en parallèle. Donc, ce concept-là, on l'a testé effectivement dans un premier temps sur une seule bille, et on voit très bien une jolie luminescence. Par contre, ça devient encore plus excitant si on met dans notre capillaire, on met une suspension de nanotubes de carbone ou de nanoparticules. Parce qu'à ce moment-là, chaque nanotube de carbone, chaque particule va être le site d'oxydation et de réduction et donc émettre un signal lumineux, donc des photons. Donc, il y a le bulk, il y a le volume de votre réacteur qui va s'allumer et qui va émettre la lumière. Donc ça, c'est une nouveauté parce qu'avant, électrochimie luminescence, ça voulait dire ben, on le fait sur la surface de notre électrode et dans la solution, il n'y avait rien. Maintenant, vous avez de la luminescence, donc émission de photons, dans l'ensemble du volume de votre réacteur. Et vous voyez ça ici, comparaison. Là, il y a la dispersion, vous ne les voyez pas, parce que c'est des nanotubes de carbone. Vous avez la dispersion des nanotubes de carbone. Sans champ électrique, il n'y a rien. Avec champ électrique, tout ça, ça s'allume dans le volume de votre réacteur. Si vous n'aimez pas la lumière chimique, donc ça, c'est une lumière chimique, on peut faire quelque chose un peu similaire. En créant de la lumière électronique ou électrique, en fait, ça, c'est une très, très jolie manip que vous pouvez faire même chez vous dans votre cuisine. Vous achetez une LED tout à fait classique chez votre fournisseur Radiosperse ou je ne sais pas. Vous la mettez dans un bécher, au fond du bécher, et vous mettez quelque part dans la solution, vous mettez 2 électrodes. Vous appliquez le champ électrique et grâce à la polarisation entre les 2 extrémités de votre LED, vous allez former ici du hydrogène par réduction, ici de l'oxygène par oxydation, et tout à l'heure dans le schéma, je vous ai dit qu'il faut qu'il y ait des électrons qui traversent. Donc les électrons vont traverser votre LED de gauche à droite, et donc ça représente un courant électrique. Donc tout d'un coup, comme par magie, votre LED s'allume en plein milieu de nulle part. D'accord ? Donc on a fait fonctionner même des dispositifs électroniques style circuit imprimé avec ce concept. Là, c'était juste pour vous illustrer ça de façon un peu plus ludique. Donc, on peut allumer tout un tas de choses grâce à cette électrochimie sans fil. Alors, on reste avec l'énergie lumineuse, mais par contre, dans l'autre sens. Si je fais des objets asymétriques par électrochimie bipolaire, je peux les utiliser pour générer un photovoltage. Ce que vous voyez illustré ici, alors, c'est une expérience assez académique, je suis d'accord, parce qu'ici, on travaille sur une seule couche de graphène. Donc, ce n'est pas du graphène comme vous trouvez souvent dans la littérature, où les gens ils disent c'est du graphène, et en fait, ils ont 150 couches de graphène les unes sur les autres. D'accord ? C'est une seule couche atomique de graphène que vous avez ici, et qu'on a modifié d'un côté avec un petit peu de cuivre. Si vous voulez, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aussi mettre du cuivre d'un côté, de l'or de l'autre côté. Vous avez la possibilité de mettre tout ce que vous voulez en termes de matériaux sur les 2 bordures de votre feuille de graphène. Et après, vous utilisez cette particule Janus, ce graphène Janus, vous l'utilisez dans un montage photovoltaïque. Vous illuminez tout ça avec la bonne longueur d'onde. Vous allumez la lumière, vous l'éteignez, vous l'allumez et vous voyez, à chaque fois, vous générez un photovoltage que vous ne pouvez pas générer si vous avez du graphène tout court sans l'aspect asymétrique. Donc il faut introduire cette asymétrie par électrochimie bipolaire pour générer le photovoltage. Donc ça, c'était encore la lumière. Maintenant, je vais passer à la dernière partie qui est peut-être la plus ludique. C'est de transformer de l'énergie en énergie mécanique. Dans un premier temps, énergie chimique. Alors là, l'électrochimie bipolaire, elle intervient de façon un peu indirecte. Parce que je vais l'utiliser dans un premier temps pour faire des objets asymétriques. Et ensuite, je vais utiliser ces objets asymétriques pour créer un mouvement. Tout à l'heure, je vous ai montré des objets style microtubes de carbone qui sont modifiés d'un côté avec un petit cluster de métal. Donc là, en l'occurrence, par exemple, c'est un cluster de platine qu'on a fixé par électrochimie bipolaire uniquement de ce côté-là et de manière symétrique autour de l'axe de notre tube de carbone. Le platine, c'est un parfait catalyseur pour la décomposition spontanée de l'eau oxygénée. Donc si vous mettez de l'eau oxygénée en présence de platine, vous allez générer de l'eau, ça c'est trivial, mais vous allez générer des bulles d'oxygène. Donc qu'est-ce qui va se passer? Votre microtube de carbone, il va être poussé de façon linéaire dans votre solution grâce à la force de vos bulles de gaz. Donc ici à droite, une illustration. Donc là, il y a le microtube de carbone. Vous ne pouvez pas voir le cluster de platine parce que c'est trop petit. Et le microtube de carbone, initialement, il était là-haut, à droite. Et avec les bulles d'oxygène, il a poussé son chemin vers le bas. Okay? Donc ça, c'est sympa, mais ce n'est pas encore très spectaculaire. Par contre, ce qu'on peut faire également avec l'électrochimie bipolaire, on peut seulement, dans un premier temps, non seulement contrôler la position de notre cluster d'un côté ou de l'autre, mais on peut aussi contrôler la position de notre cluster métallique par rapport à l'axe de notre objet. Soit je le fixe de façon centro-symétrique par rapport à l'axe, comme vous avez ici, mais je peux utiliser une astuce, je n'ai pas le temps de la montrer, mais je vous l'expliquerai si vous voulez, de façon asymétrique aussi par rapport à l'axe. Donc maintenant, vous avez un cluster de métal qui est fixé ici au lieu d'être fixé ici. D'accord ? Donc vous pouvez tout de suite deviner qu'est-ce qui va se passer si je prends un objet comme ça et je l'expose à une solution de l'eau oxygénée. Qu'est-ce que je vais avoir comme mouvement ? Bien sûr, je vais avoir une rotation. C'est assez facile à deviner. Donc, et ça, on peut l'introduire sur mesure. Vous voyez ici en haut, le cluster de platine, il n'est pas tout à fait centré par rapport à l'axe de votre tube de carbone, d'accord ? Et le résultat, c'est ce que vous voyez dans la vidéo. On jette tout ça dans l'eau oxygénée et on va voir qu'effectivement, on introduit un mouvement circulaire de notre tube de carbone autour de son axe parce qu'il y a de l'oxygène qui évolue. Et donc ça, ça continue tant que vous avez de l'eau oxygénée dans la solution. D'accord ? J'ai aucune idée à quoi ça sert, mais ça nous a fait beaucoup plaisir. Oui, c'est pas moléculaire, c'est un peu plus grand que moteur moléculaire, mais ça nous a beaucoup amusé. Alors, dans la même veine, ça veut dire toujours électrochimie bipolaire comme un moyen indirect d'introduire de l'énergie mécanique dans le système, c'est l'exemple suivant. Vous vous rappelez de cette particule qui est moitié vert, moitié noir? Ça, c'était notre gel, d'accord? Que j'ai rendu asymétrique grâce à l'électrochimie bipolaire. Si je remplis cette particule, par exemple, avec un solvant, pour faire simple, je prends de l'éthanol, et après, je jette cette particule dans l'eau, l'éthanol va être relargué de façon sélective de ce côté-là, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que de ce côté-là, à gauche, on a changé la porosité ou la perméabilité de notre matériau. Okay? Et donc, si je relargue que d'un côté et pas de façon symétrique de tous les côtés, mais ma particule, elle va avoir un mouvement dirigé. Et ça, c'est ce que vous voyez dans la prochaine vidéo, si je veux bien démarrer. Donc, si jamais vous ne faites pas l'électrochimie bipolaire avant, la particule ne bouge pas ou elle fait du mouvement brownien plus ou moins aléatoire, un coup à gauche, un coup à droite, un coup devant et un coup derrière. Donc là, le mouvement, il est uniquement dû au fait qu'on a rendu asymétrique la particule par électrochimie bipolaire. Donc ça, c'était l'électrochimie bipolaire comme un ingrédient indirect. J'ai utilisé l'électrochimie bipolaire pour faire des matériaux et ensuite, le fait que les matériaux étaient asymétriques, ça m'a permis de générer un mouvement. J'ai toujours besoin d'asymétrie pour faire un mouvement, d'accord ? Sinon, il n'y a pas de mouvement. Et dans la dernière partie, je vous montre qu'est-ce qui se passe si maintenant on a un matériau qui, initialement, est complètement homogène. Et c'est grâce à l'application du champ électrique que je vais briser l'asymétrie in situ. Et c'est ça qui va me générer le mouvement. Donc ici, un exemple extrêmement banal. Je reviens sur notre bille qui est positionnée dans de l'eau. Si j'applique le champ électrique et j'ai rien d'autre dans l'eau, je vais avoir, comme on a dit tout à l'heure, je vais avoir formation d'oxygène d'un côté, formation d'hydrogène de l'autre côté, sauf que, ce qu'on a oublié tout à l'heure, la stoichiométrie de la décomposition de l'eau veut que vous produisiez deux fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Donc vous voyez ici, à gauche, vous avez des bulles d'hydrogène, ou le gaz d'hydrogène, il prend beaucoup plus de place que les quelques bulles d'oxygène de l'autre côté. Normalement, il y a deux fois plus d'hydrogène et que de l'oxygène. Donc ça veut dire que vous avez des bulles d'hydrogène qui poussent l'objet de gauche à droite, et les bulles d'oxygène qui essaient de lutter et ils poussent de droite à gauche, sauf qu'ils sont moins nombreux, donc ils vont perdre. Donc l'objet, dans sa globalité, va se déplacer par ce mécanisme de gauche à droite. Pas de façon très très efficace, je suis d'accord, parce que vous avez deux phénomènes qui luttent. Donc on a dit, bon, mais d'accord, si c'est comme ça, on va essayer d'éliminer une des deux productions de gaz. Donc on a rajouté dans la solution une molécule qui s'oxyde beaucoup plus facilement que l'eau. Donc du coup, il n'y a plus d'oxygène. Et ce qui est montré ici, c'est une manip à nouveau encore très très simple, sauf que maintenant on a du hydroquinone dans la solution qui se transforme en quinone par oxydation. Et ça, ça se passe beaucoup plus facilement que l'oxydation de l'eau. Donc maintenant, on a des bulles que à gauche. Et maintenant, le mouvement, en effet, il devient beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace, au point qu'on peut même bouger des objets d'ordre millimétrique. C'est des gros objets. Vous voyez, ça se promène dans le capillaire de gauche à droite avec une fumée de gaz qui sort derrière de l'objet. Alors, le dernier exemple, où on n'a pas du tout une évolution de gaz, mais plutôt un phénomène de gonflement et de dégonflement, c'est l'exemple des polymères conducteurs. Des polymères conducteurs, ils sont électroactifs, on peut les oxyder, on peut les réduire. Tout à l'heure, je vous ai montré les images où ils changent de couleur, d'accord ? Et nous, on se dit, mais tiens, s'ils gonflent et s'ils se contractent, et si ça se fait de manière inhomogène le long de l'objet, ce qui est par définition le cas quand vous faites de l'électrochimie bipolaire parce que vous avez un gradient, okay, peut-être on peut générer un mouvement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé un film de polymère conducteur, disons, c'est un mince film de quelques microns, mais qui tient debout, c'est une membrane si vous voulez. On l'a placé dans notre cellule d'électrochimie bipolaire et on l'expose à notre champ électrique. Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir d'un côté, là où il y a la polarisation positive, on va avoir une oxydation. De l'autre côté, on va avoir une réduction. Alors, dans les polymères conducteurs, quand vous les oxydez et quand vous les réduisez, il faut que vous compensez les charges qui sont créées à l'intérieur du polymère en expulsant ou en intégrant des contre-ions. Il se trouve que dans ce cas, vu que c'était du polypyrrole dopé avec un anion qui est assez volumineux, la compensation de charge se fait par l'échange de cations. Donc là où j'oxyde, il faut que j'expulse des cations. Là où je réduis, il faut que j'introduis des cations. Et comme chaque fois un cation il est entouré d'une couche de solvant, mais là où vous allez introduire des cations, votre polymère va gonfler. Là où vous sortez des cations, votre polymère il va se contracter. Donc tout ça, ça conduit à la déformation de manière schématique de votre polymère. Et je vous illustre ça dans une première vidéo que vous voyez ici. Donc ça, c'est notre film de polymère conducteur. Il n'est pas connecté à rien du tout. Ça, c'est juste un socle pour qu'il tient en solution. D'accord ? Les électrodes sont quelque part par là. Ils peuvent être assez loin. On applique le champ électrique et on voit que, comme par magie, tout d'un coup, notre polymère il se met à changer. Et si je relâche la contrainte du potentiel, il va se décontracter et il va revenir à son état initial. D'accord ? Si on prend le même objet, maintenant je ne le mets pas sur un socle, mais je le pose par terre dans ma cellule. Et en plus, j'utilise une astuce supplémentaire. Au lieu d'avoir tout le temps la même polarité de mes deux électrodes, je vais inverser régulièrement la polarité de mes électrodes. Donc, je vais induire des gonflements, contractions, gonflements, contractions de mon objet. Et là, vous pouvez éventuellement déjà deviner qu'est-ce qui va se passer. A priori, mon objet, il va commencer. Et maintenant, il n'est pas sur un socle, donc il est par terre. Donc, il va être obligé de réagir à ces contraintes mécaniques. Donc, il va commencer à marcher. Il va se déplacer dans la solution comme une chenille ou comme un escargot, peu importe comment vous voulez comparer ça. Donc, il va marcher de gauche à droite. Alors, c'est un peu glissant, vous voyez qu'il peine un peu, mais il arrive quand même à faire un mouvement directionnel grâce à l'électrochimie bipolaire, cette fois-ci avec un courant alternatif pour changer la polarité. Alors, ça, c'est la version académique. Si vous donnez ça dans les mains du service de communication du CNRS, ça donne ça. Alors, on a 2 minutes pour une petite vidéo. Donc, ça donne ça. Si maintenant, on va lancer ça, j'espère que j'ai le son.
Bonjour à vous, curieuses et curieux. Et surtout à toi, Emma, qui est arrivée ici par hasard. Alors, le défi du jour, faire bouger un objet à distance, sans le toucher, sans souffler dessus, sans aimant et sans moteur. Non, je ne suis pas le dernier Jedi, il s'agit d'une recherche très sérieuse de l'Institut des sciences moléculaires de Bordeaux. Alors déjà non, les chercheurs ne tentent pas de faire bouger des rochers ni des tasses, mais de petits objets de quelques millimètres de long, des bandelettes de polymère, un genre de plastique un peu spécial. Regardez.
Donc vous impressionné la vidéo. Ouais.
Attendez. Franchement, on dirait pas une chenille qui fait du moonwalk. Ce n'est pas le pouvoir de la musique qui donne vie à ce petit bout de plastique. La technique utilisée s'appelle électrochimie bipolaire. Un terme que vous pouvez désormais placer en soirée. Le principe ressemble à celui de la pile, où une réaction chimique va créer un courant électrique. Sauf que dans notre cas, c'est l'inverse. Un courant électrique va produire des réactions chimiques sur l'objet. Revenons à notre polymère danseur. Vous l'aurez compris, c'est un polymère qui a des propriétés un peu particulières. D'une part, il conduit l'électricité, ce qui est assez surprenant pour un plastique. Et d'autre part, il a été façonné pour que chacune des faces réagisse différemment au courant électrique. La face du bas est plus rugueuse que la face du haut. Elle sera donc le siège de plus de réactions chimiques. Et du coup, elle se déformera davantage. En se gonflant et en se dégonflant, elle va tordre l'objet. Et en jouant sur la courbure des extrémités et le courant appliqué, on arrive à le faire danser. Voilà, c'est la première fois que des chercheurs réussissent à contrôler le mouvement d'un polymère sans connexion physique. Sans câble, quoi. Alors oui, je vois poindre votre question. En effet, ce petit bout de plastique ne se balade pas comme ça, tout seul. En fait, il baigne dans un milieu aqueux qui permet de conduire l'électricité qui est appliquée sur les bords de la cuve. Et figurez-vous que ce milieu pourrait être comparable au liquide présent dans le corps humain. Vous me voyez venir ? Eh oui ! À partir du mouvement de ce petit polymère, il est possible d'imaginer de nombreux dispositifs biomédicaux tels que les muscles artificiels. Costaud comme découverte !
Voilà, donc c'est sorti la semaine dernière. Hey, si vous voulez le regarder, il y a...
Abonnez-vous !
Il y a une chaîne maintenant YouTube du CNRS, j'ai fait un peu de publicité, hein, que je trouve assez bien parce qu'il s'occupe de la vulgarisation de la science et je pense que c'est très très important de travailler dans ce sens-là. Et donc je les remercie beaucoup d'avoir utilisé nos travaux pour faire une des premières vidéos du domaine. Alors, donc avec ça, on a presque fini. J'aime bien, même si c'est un résultat très ancien, j'aime bien finir avec un exemple que j'appelle électrochimie bipolaire philosophique. Et alors, vous allez voir pourquoi. Jean-Marie, il n'aime pas les dendrites, hein, si j'ai bien compris à travers son exposé, parce que ça l'embête, parce que ça fait des courts-circuits dans les batteries. Alors nous, justement, on aime beaucoup les dendrites, et vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Ce qu'on a fait dans ce travail, c'est qu'on a pris un objet, et d'ailleurs, c'est un objet sous forme d'une dendrite, qui est fait par un métal non noble, du zinc, du cuivre. Et si on expose ce métal non noble à notre champ électrique, on va polariser comme d'habitude. Maintenant, on a un métal qui est non noble, ça veut dire qu'il peut s'oxyder d'un côté. Donc ça veut dire que notre objet va se détruire, il va se dissoudre. Et comme les cations métalliques sont présents dans la solution, ils vont se déposer de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'on va reconstituer l'objet. Donc globalement, vous allez avoir l'impression que votre objet se déplace de gauche à droite, sauf que ce n'est pas vraiment un mouvement, ou disons, en tout cas, c'est un des points pourquoi j'appelle ça une question philosophique. Qu'est-ce que c'est un mouvement? Parce qu'à la fin, ce n'est pas le même objet que celui qui s'est lancé dans la course au début. Donc c'est un peu comme si vous étiez dans votre voiture, il y a tout le temps votre coffre qui se dissout et votre capot qui se rallonge, d'accord? Ça semble à bouger, mais ce n'est pas vraiment la façon de se déplacer la plus efficace. Alors, donc je vous montre la vidéo et après je vous explique pourquoi c'est vraiment un petit problème philosophique. Donc ici, vous allez avoir cette dendrite qui va se promener. Si ça se lance, oups, ça y est. Voilà, donc là, une petite dendrite de zinc. Et vous l'appliquez, vous lui faites subir le champ électrique. Vous voyez qu'elle se dissout tout le temps à gauche. Elle se reconstitue à droite, donc elle donne l'impression de voler à travers la solution, d'accord, par ce mécanisme de auto-régénération. Alors, où est le problème? Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment une bonne réponse à la question que je vais vous poser. Si, il y a une réponse, mais ça se discute. Vous voyez bien que cet objet, il a une vitesse, vous pouvez la mesurer. On peut la mesurer, c'est fait quelques millimètres par seconde, donc il y a une vitesse. Vous pouvez arrêter la manip à n'importe quel moment. Vous pouvez sortir avec une pince, vous pouvez sortir la dendrite, vous la mettez sur une balance, vous mesurez son poids. Donc vous avez masse et vous avez vitesse. Donc vous avez énergie cinétique. D'accord ? Sauf que cet objet n'a pas d'énergie cinétique dans le sens que ça ne peut rien pousser, vous mettez le moindre obstacle sur son chemin, ça ne peut pas transmettre une impulsion sur autre chose. Donc ça veut dire que vous avez, d'un côté, formellement, vous avez une énergie cinétique, parce que vous avez masse et vitesse, mais en réalité, vous n'avez pas d'énergie cinétique à transmettre à quelque chose d'autre. Donc la grande question, disons, c'est pas une question du siècle, mais c'est, pour nous, c'était une grande question au départ, qu'est-ce que c'est? Est-ce que, premièrement, c'est un vrai mouvement? Et si c'est un vrai mouvement, pourquoi il y a de l'énergie cinétique sans qu'il y ait de l'énergie cinétique? Voilà. Donc, j'ai fini avec cet exposé sur ce point d'interrogation. On peut en rediscuter plus tard, si vous voulez. Et je vais, bien sûr, remercier... Ah, j'ai oublié de résumer, pardon. Je vais résumer un peu l'essentiel de mon séminaire. J'espère que je vous ai convaincu que l'électrochimie bipolaire, c'est vraiment un outil extrêmement intéressant dans le contexte de la micro- et nanotechnologie. Je ne vais pas parler des autres aspects chimie analytique et catalyse, etc., mais peut-être une autre fois. Pourquoi en chimie des matériaux, c'est extrêmement intéressant? Parce que vous avez un contrôle parfait sur ce que vous faites sur vos objets. Hein, on a un contrôle spatial. Où est-ce qu'on met un dépôt? Quelle orientation on donne à notre dépôt? Quel est le type de gradient qu'on génère à la surface? Pour moi, l'avantage le plus important, c'est que c'est un processus qui se déroule dans le volume d'une solution et pas à la surface. Hein? Tous les autres systèmes physico-chimiques qui cassent la symétrie, il y a toujours besoin d'une surface ou d'une interface. Ici, vous travaillez dans le bulk d'une solution et chaque particule qui est présente est adressable sans contact électrique. Donc ça, c'est le troisième point. Et vous avez vu, c'est très, très versatile en termes de type de matériaux. On peut fonctionnaliser pratiquement tous les matériaux, sauf les isolants, bien entendu. Et on peut déposer pratiquement tous les types de matériaux, les métaux, les semi-conducteurs, les polymères conducteurs, les polymères isolants, etc., etc. Et je vous ai montré que dans le contexte spécial de la transformation d'énergie, ben, on a des possibilités d'utiliser l'électrochimie bipolaire pour transformer énergie électrique en énergie chimique, énergie chimique en énergie électrique, photonique, etc. Donc, également des concepts extrêmement intéressants, voire parfois tout simplement ludiques pour la partie transformation en énergie mécanique. Je ne sais pas pour l'instant à quoi ça peut servir, mais en tout cas, un jour, peut-être, ça pourrait être intéressant. Et je finis par remercier toute une équipe. Donc, les premières deux rangs, c'est des étudiants en thèse. Les trois en bas à gauche, c'est des post-docs. Les deux en bas à droite, c'est des stagiaires master qui ont énormément contribué à toute cette thématique électrochimie bipolaire qui nous intéresse depuis presque une dizaine d'années dans mon laboratoire. Et il y a bien sûr aussi des permanents qui sont impliqués. Ici, en haut, c'est des gens de Bordeaux. Et dans la liste en bas, vous avez des collaborations à l'échelle européenne, voire internationale. Et bien sûr, tout un tas de financements. Et je vous remercie pour votre attention à cette heure tardive de l'après-midi.